Gustave Droz, Le jardin du roi. Je sortais ce matin vers midi du théâtre de la Porte-Saint-Martin, et tout en mettant dans ma poche le coupon de loge que je venais d'y prendre, je me disposais à remonter en voiture lorsque j'aperçus, devant les affiches, un grand monsieur sec, long, à cheveux blancs et à nez pointu, qui se tenait en équilibre sur la jambe droite. Oh, il ne resta qu'un instant dans cette posture instable. Sans doute il souffrait du pied gauche. Mais ce brave monsieur avait été si comique qu'il me fut impossible de ne pas rire et de ne pas me rappeler le héros du jardin des plantes. Et du héros, j'en vins à penser aux autruches, à l'ours Martin, aux petites caillettes en particulier, au jardin botanique, noyé dans le soleil. Bref, je dis au cocher de me conduire au jardin des plantes, par les quais, et j'allumais un cigare, tout joyeux. Il y avait plus de 10 ans que je n'avais vu l'éléphant et le cèdre. Lorsqu'une idée riante vous traverse le cerveau, je trouve qu'il faut s'y accrocher, et la suivre jusqu'au bout. Et c'est la réunion de tous ces petits bonheurs, de toutes ces petites joies imperceptibles, et que la masse néglige, qui constitue la sérénité de la vie. Il n'y a pas de plaisir insignifiant. Ils s'enchaînent l'un à l'autre, comme les grains d'un chapelet. La question est de n'en point omettre, de ne pas laisser passer un rayon de soleil, sans rendre zozo, pas un éclat de rire, sans prêter l'oreille. Je suis de ceux qui mettent à la fenêtre quand le régiment passe, musique en tête, qui se réservent un livre amusant pour un jour de pluie, qui ménagent leur plaisir, se préparent des joies, et saute sur celle qui se présente comme un écureuil sur une noix. Mais tout cela nous mènerait bien loin. Quant à présent, il ne s'agit que de l'ours Martin et des feuilles qui poussent. Parlons de tout cela. Vous avez une demi-heure à perdre. Cher lecteur, entrez avec moi dans le jardin du roi. Je dis « jardin du roi » et c'est avec intention. On est dans un lieu qui appartient au passé. Il y a dans la grille d'entrée, dans ces cahutes empaillées et des allées palissadées de treillage rustique, dans ces maisonnettes à petits carreaux cachées dans le lierre, dans ces pignons élevés, ces mansardes d'une autre époque, un petit air vieillot qui vous rajeunit de 80 ans. Il me semble que rien ne soit changé depuis Louis XVI, et j'y éprouve les mêmes impressions qu'au petit Trianon. J'apercevrai le vieux Duraton ou l'estimable Buffon, en aile de pigeon et l'épée au côté, dans l'un de ces petits bosquets qui ont l'air de joujou, que je ne serais pas étonné. Oh oui, c'est bien là le jardin du roi. Le factionnaire devrait avoir la calotte courte, la grande guêtre noire et le lampion à cocarde. Dans tous les pays d'Europe, vous trouverez des ménageries plus riches et plus garnies que ceux de Paris. Et partout, vous trouverez des allées plus larges, un emplacement plus vaste, des bâtiments plus grandioses et plus neufs. Mais peu m'importe. Ce que j'aime, c'est précisément cette vieillerie. C'est cet amphithéâtre en forme de temple grec, devant lequel j'achetais les pains de seigle quand j'étais tout bambin. Ce labyrinthe qui me semblait une montagne, qui me paraît si petit maintenant. La lunette qui est en haut et dans laquelle je regardais moyennant un sou en montant sur un petit banc, et l'homme au chapeau graisseux qui disait de savoir érailler « À droite, au-dessus de la cheminée qui fume, vous apercevrez, etc., etc. » Et quand la cheminée ne fumait pas, on cherchait longtemps. Et comme il sentait le vin, cet homme, vous souvenez-vous, assis sur les colonnes en pente au kiosque, des centaines de noms de baptême et de cœurs enflammés. Comme cela m'intriguait, ces cœurs enflammés. Et lorsque je voyais, dans les petites allées étroites et sinueuses, toutes sombres sous la verdure, le voltigeur au pompon rouge, cheminant près de sa payse, la main sur la poignée de son sabre, je suivais des yeux le pompon jaune, et je restais rêveur, tout en grignotant mon pain de seigle. Vers le milieu du labyrinthe, à l'endroit où deux allées se réunissent, vous rappelez-vous le marchand de bagues en perles et en coco à la garce? À la glace, oui, il était là, sous un arbre à petites feuilles, pimpant, gai près du triage, auquel étaient accrochés des cerceaux, des cordes et des filets pleins de balles. Et le cèdre, avec ses bras immenses et son feuillage serré, sous lequel la voix devient sonore comme dans une église. Je montais sur le banc de pierre qui entoure le géant, et l'histoire du chapeau qui avait contenu ce colosse ne plongeait dans un océan de rêverie, et les cerfs, et la fosse aux ours, avec son arbre où Martin ne montait jamais, et le squelette de la baleine, et tous ces souvenirs merveilleux de l'enfance qu'on retrouve au détour de chaque allée. Rien n'est changé. En marchant, le passé s'anime, et sur le sable, je crois retrouver ta trace des petits petiots que j'avais dans ce temps-là. Voilà pourquoi j'aime le jardin des plantes. C'est que je vois encore avec mes yeux d'enfant. Je me rappelle mes terreurs devant les bêtes féroces, mes stations devant le pan qui ne voulut pas faire la roue, mon amitié pour l'éléphant, quoique sa trompe me fît un peu peur lorsqu'elle s'approchait de mon visage et que j'apercevais l'intérieur rose et humide de ces deux trous qui semblaient me regarder. Mais je l'aimais bien parce qu'il était fort et qu'il paraissait bon. Son petit œil me fixait. Je le voyais, du moins. Je croyais. J'étais sûr qu'il lisait dans mon regard l'affection que j'avais pour lui. Seulement, je le trouvais un peu sale. Je me le rappelle parfaitement, j'en ai été blessé. « Il ne se lave pas, me disais-je, et pourtant il a de l'eau. » Cela me choquait. J'ai revu tout cela ce matin. J'ai arpenté le jardin dans tous les sens, allant à la recherche de mes impressions. Eh bien, je suis enchanté. Vive la joie! Oh, je suis jeune encore, car j'ai été ému comme un enfant. Je me suis rappelé, et j'ai été voir, la grande horloge dont on aperçoit le mouvement et le balancier à travers une glace. C'était là, sous cette horloge, que nous nous arrêtions lorsque nous étions en promenade. Aux heures, au quart et au demi, tous les regards se tournaient du côté de la grosse machine qu'on voyait s'agiter. Il y avait des ailes qui remuaient, les contrepoids qui descendaient, et toute une confusion de roues, de volants, de tiges s'agitant avec un bruit particulier. Puis on entendait des grincements. On voyait le marteau s'élever lentement, retomber sur la cloche, et l'heure sonnait, pure, vibrante. Et à mesure que le son diminuait d'intensité, on saisissait les vibrations qu'on aurait presque comptées. Cette impression me rappelait celle qu'on éprouve à la vue de ces vagues circulaires qui se produisent dans l'eau lorsqu'on y jette une pierre. Et à mesure que ces cercles s'élargissent et s'éloignent de leur point de départ, ils deviennent lents, plus confus, mais plus saisissables au regard. C'est au milieu de tous ces bons vieux souvenirs que mon temps de collège m'est revenu à l'en-tête. Je me suis assis tout exprès pour penser à toi, cher ami, qui te rappelle la misaine et lui envoie de l'autre bout du monde une cordiale poignée de main. Est-ce étrange, dis-moi, avoir jeté ensemble des pains de seigle à l'ours Martin et se retrouver un beau jour séparés par l'océan, l'un à Paris, l'autre à Washington. Il y avait ce matin-là pas mal de monde devant le Lion. Il était étendu au béatement, la tête contre la grille, les yeux à moitié fermés, un chanoine après le café. À ce moment, il se mit à bâiller, et sur sa grande gueule s'ouvrit démesurément sa crinière s'agita. Il étira ses grosses pattes nerveuses et referma les yeux. Il était superbe de calme et de force. Cependant, les spectateurs étaient irrités de le voir dormir ainsi devant eux. On lui jetait de petites pierres et on lui adressait 1000 injures. La grille était en fer rouge, forgé et à l'épreuve. Et à côté de moi, il y avait un petit monsieur, chétif, mal bâti, d'une mise extrêmement soignée, peignée, brillant, bien ganté, ayant un parapluie. Et il regardait la grosse bête fixement, et pour ainsi dire sévèrement, répétait avec une impatience visible et constante. Alors, voyons, allons donc. Et comme le roi du désert soulevait à peine ses paupières et que ses larges flancs restaient immobiles, le monsieur se retourna brusquement en haussant les épaules et s'en fut. Je m'en allais aussi, sans lever les épaules toutefois, et je sortis du jardin par la vieille porte qui donne sur le derrière de l'hôpital. J'étais curieux de revoir ce quartier. Je m'y enfonçais avec tant d'enthousiasme que 10 minutes après, j'étais perdu. Je me gardais de demander ma route, comme bien vous pensez, ayant du temps devant moi et j'errais à l'aventure dans les ruelles. Vous n'avez pas idée de ce qu'est ce coin de Paris. C'est à 500 lieues du boulevard de l'Italie, des Italiens. Autre tête, autre population, autre architecture. Des terrains vagues contenus dans ces murs qui croulent. Des baraques en planches toutes pleines de cahiers, haillons. Puis dans des cours immenses, des montagnes de tarins jaunes qui travaillent les hommes de minu. Et aux petites fenêtres étroites, des girofles, un gilet qui sèche ou une fille qui chante. Et au fond de cette cour de grande route sombre, où l'on distingue confusément les premières marches vermoulu d'un grand escalier arôme de bois. À gauche, au milieu du débris de planches noirâtres, les enroulements d'une grille Louis XV perdue dans la poussière et les toiles d'araignée. On ne sait où l'on est. On croit découvrir dans la pierre sombre un écusson à demi effacé, et tout à coup, on entend le chant du coq. C'est une vacherie qui est derrière le mur. On fait 10 pas, et par une petite porte étroite, on plonge dans une autre cour. De la paille et des poules, deux espèces de chaumières au pied desquelles croît l'herbe, et dans le fond des arbres, un marais, des carrés de légumes, et une fille en sabots, jupon court, les bras nus, tournant la manivelle d'un puits. C'est une ferme en pleine Normandie. Plus loin, un grand mur qu'on suit pendant longtemps et qui rend la rue sombre. De grands marronniers apparaissent au-dessus de ce vieux mur couronné de mousse et de lierre. C'est un couvent qui est là derrière. Voici la petite porte avec ses clous saillants, sa serrure à peine visible sous la poussière et la roue boue. Et à droite et à gauche, deux bornes immenses et pointues. Au milieu de ces deux portes épaisses enfoncées dans la pierre, est un grillage à barreaux scellés, solide, puis une petite croix. Les enfants déguenillés montent sur les bornes, jouent aux billes dans les coins, et tout à coup, dans une ruelle sombre, humide, et qui sent le renfermer, on entend le son lent et triste de la cloche à travers les arbres. Cloche de monastère, plaintive et discrète, pénétrante, on songe à la chartreuse de Pavie, et en se retournant, on aperçoit un écriteau sur lequel on lit « Pension bourgeoise ». Trois marches, une porte à barreaux verts, et dans l'intérieur, un jardinet à sable jaune, une treille, un vase au fond, et deux petites amours en plâtre, à droite et à gauche d'un banc de gazon. Est-ce la pension bourgeoise ou Vautrin en Jolet Rastignac? N'était-ce pas dans ce quartier? Oui, sans doute. Voilà la salle à manger du rez-de-chaussée, avec son papier jaune, son armoire en sapin, jouant l'acajou. La table est mise et une odeur de pomme moisie arrive jusqu'à moi. Oui, oui, Madame Bouquet est là, dans sa cuisine, qui taille les côtelettes et coupe les oignons. Et derrière ce petit carreau fendu, orné de papier gris, n'est-ce pas là la large face du vieux trompe-la-mort qui fait mousser le savon, le rasoir à la main? Mais passons. D'immenses hangars encombrés de ballots, les poutres noires s'enchevêtrent, se perdent dans l'obscurité, et tout un monde d'êtres étranges, vêtus de loques, les bras nus, chaussés de souliers sans semelles, grouille dans ce milieu puant. C'est le dépôt d'un chiffonnier en gros. Là, une montagne d'os, ici un amas de vieux papiers, d'énormes balances, pente du fait, repère de bandits, cour des miracles, comptoir du commerce, caisse. Les ferrailles amoncelées semblent être des armes cachées sous la poussière. On entend des bruits de chaîne, mais un sergent de ville qui passe accepte une prise de tabac du maître de la maison qui flâne sur la porte son gros verre en avant. Et à 10 pas de là, une petite boutique de bric-à-brac où sont étalés, dans une confusion charmante, des chapelets, des boutons, la culotte, des tabatières en cuir bouillé avec le portrait du général Foy et le profil des 4 sergents de La Rochelle, surmontés d'une étoile rayonnante, des roulettes, des tenailles bréchées, des vases sans anse et des anses sans vase, et des milliers de choses sans forme, sans nom. Cela a l'air d'un rêve. N'est-ce pas la boutique d'un pauvre juif du ghetto? Sommes-nous dans le Transtévère ou dans une de ces ruelles tortueuses qui descendent du Bosphore? Pourquoi ce vieux truand paraît-il souriant dans cette masure au milieu de ces épaves? Je m'approche. Il lit le petit journal en caressant un chat qui ressemble à un vieux manchon. Et tout à coup, je me trouve au milieu d'une place immense, pleine de décombres sur lesquels l'herbe commence à pousser. Sur les hautes buttes de terre, des enfants jouent et des femmes tricotent au soleil. Au loin, à l'horizon, une silhouette d'église ou du couvent, je ne sais pas, se détachant sur le ciel bleu au milieu des grands arbres, puis, vers la gauche, une masure fendillée sur laquelle je lis « Théâtre Saint-Marcel », un théâtre éphémère, car il va bientôt disparaître. Mais je n'en finirai pas, cher lecteur, si je voulais tout dire, et vous êtes déjà trop bon d'avoir consenti à vous perdre avec moi dans ce quartier perdu. Si toutefois, vous voulez m'en croire, si vous êtes amateur de sensations étranges et de flâneries pittoresques, au sortir des Tuileries ou de la Madeleine, faites-vous conduire bien vite derrière l'hospice de la Pitié et marchez au hasard jusqu'à l'observatoire. Vous crotterez vos bottes, mais vous aurez lu un roman. Gustave Droz.